est-ce que la triade dont tu parlais, individu, enfin œuvre, individu, vécu, est-ce qu'elle ne se retrouve pas, en quelque sorte, du côté de l'artiste, comme préalable à la création d'une œuvre d'art? C'est-à-dire, est-ce que ça ne serait pas cette sorte de triade qui serait la condition, en quelque sorte, pour que soit créée une œuvre d'art? C'est-à-dire que il faut un artiste, enfin une personne qui ait un savoir technique, mais qui ait lui aussi conduit toute cette expérience, c'est-à-dire ce réseau complet de relations, d'observations, d'énergie, de non-superficialité, etc., pour arriver à produire non pas simplement une chose parfaitement technique, mais ce qu'on pourrait appeler une œuvre d'art. C'est-à-dire que l'expérience esthétique, ça serait celle que fait l'artiste pour arriver à l'œuvre et celle que nous, que le regardeur, fait pour aborder l'œuvre.
Oui, alors effectivement, j'ai pas parlé de l'artiste, en fait, de l'expérience de l'artiste lorsqu'il crée, mis à part Dieu, si on peut le considérer d'une certaine manière comme un artiste dans sa création. Mais effectivement, Dewey en parle dans ce livre-là. Et pour lui, effectivement, la création de l'œuvre par l'artiste est elle-même une expérience esthétique et qui comporte tous les ingrédients de l'expérience esthétique. Donc, effectivement, c'est sans cesse un dialogue entre son œuvre, entre lui, à travers sa conduite, c'est-à-dire ce que Dewey appelle son intelligence et son vécu. Alors ça, je trouve que c'est particulièrement flagrant. Alors, je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur Internet, sur YouTube, il y a des vidéos de Gerhard Richter, ce grand artiste allemand, en train de peindre un tableau abstrait. Et alors, c'est fabuleux parce qu'on voit... Donc on voit la toile qui est blanche au début, on voit Richter qui est là, il commence à peindre des choses, on sent en fait qu'il se passe plein de choses, qu'il réfléchit, toc, il remet de la couleur, il s'éloigne, il regarde, il revient vers la toile, il recouvre tout de blanc, il efface tout, ça lui plaît pas, il recommence, et là on a complètement en fait cette impression de fusion entre l'œuvre, la forme qui est en train de se créer, entre l'individu Richter, quand on le voit, qui pense et qui agit, et puis tout ce qui doit se passer dans son corps à lui, enfin, en tant que peintre. Donc effectivement, il y a une expérience esthétique aussi chez l'artiste. Alors, après, ça ne veut pas dire que le spectateur revit l'expérience esthétique de l'artiste, hein, parce que ce n'est plus la même triade, hein, c'est le vécu de la personne, c'est ses connaissances qui sont en jeu. Mais ceci dit, y a quand même sûrement quelque chose aussi de l'expérience de l'artiste dans sa création qui est préservée aussi dans l'expérience du spectateur.
Dans les critères de l'expérience esthétique, tu as cité l'émotion.
Oui.
Bon, je suppose qu'il y a d'autres critères, mais ce qui m'interroge, c'est quand on me dit ça, c'est une œuvre d'art, et que moi, je n'éprouve aucune émotion devant cette œuvre d'art, quel critère j'ai pour estimer que c'est quand même une œuvre d'art ?
Oui. Alors, ça, c'est c'est une autre question, mais qui est très importante aussi. Qu'est-ce qui est œuvre d'art, qu'est-ce qui n'est pas œuvre d'art? C'est pas une question qu'il aborde en tant que telle, en fait, là-dedans. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que par rapport à certaines œuvres, tout le monde... c'est très banal, mais c'est une constatation qu'on peut faire, c'est la réalité. Tout le monde n'a pas la même expérience esthétique par rapport à des objets qualifier d'œuvre d'art, hein. Que ce soit des objets de l'art contemporain pour lesquels il peut y avoir des polémiques, on dit c'est de l'art ou c'est pas de l'art, mais j'en suis absolument aussi convaincu par rapport à des objets pour lesquels le statut d'art n'est pas mis du tout en cause. Par exemple, un tableau de Rembrandt ou la 9e symphonie de Beethoven. Alors, c'est peut-être encore plus vrai dans la peinture, en fait, que dans la musique. Mais dans un portrait de Rembrandt, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne ressentent quasiment rien, mais qui ne vont pas mettre qui vont pas remettre en cause, en fait, le statut d'œuvre d'art de ce portrait de Rembrandt. Donc, en fait, tout ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à cette œuvre-là, certaines ressentent une expérience esthétique ou disent ressentir une expérience esthétique, parce qu'après, il faut voir aussi derrière qu'est-ce qu'il y a. Hein. John Dewey a un chapitre assez savoureux sur la critique, sur les critiques d'art. Quoi. Il est assez caustique là-dessus, où ils disent qu'en fait, souvent, ils parlent de l'œuvre, mais ils en parlent autour, mais ils ne parlent pas vraiment de l'œuvre. Donc on peut se demander aussi qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Quoi. Et donc, du coup, des œuvres sur lesquelles tout le monde, en tout cas, n'a pas la même expérience esthétique. Il y a des gens qui en ont, d'autres qui n'en ont pas. Alors après, il y aurait cette question, effectivement, qui l'aborde pas, donc que je ne vais pas aborder à sa place, qui serait qu'est-ce qui est art, qu'est-ce qui n'est pas art.
Je te remercie d'avoir développé ce que tu as appelé l'expérience artistique ou esthétique elle-même, c'est-à-dire celle de l'artiste puis du contemplateur. Parce que j'avais l'impression que dans le livre, il parle davantage de la dimension esthétique de toute expérience. Mm-hmm. Alors, ceci néanmoins me conduit à une question, hein, parce que je suis assez d'accord, enfin, je suis même très d'accord avec ce que tu nous as dit, et donc avec Dewey, au sujet de l'expérience de l'artiste ou du face à l'œuvre d'art. Mais est-ce que tu pourrais, mis à part Dieu, développer un peu la dimension esthétique de toute expérience,
oui,
et comment elle améliore l'individu et ouvre une voie merveilleusement démocratique,
oui,
à ce qui concerne l'esthétique ou l'art.
Oui. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. Dewey parle de l'esthétique dans toute expérience, mais il parle aussi très largement quand même de l'expérience esthétique de manière spécifique. Alors, en fait, cette composante esthétique, elle vient c'est ce qu'on ressent, en fait, d'une espèce d'achèvement. Alors, il y a plusieurs critères, c'est-à-dire l'expérience doit avoir un achèvement, c'est-à-dire il y a une espèce de... elle est complète, en fait, l'expérience. Donc, il y a le sentiment qu'on est en train de... qu'on vit quelque chose, en fait, qui a une unité, une intégrité. Et... qu'on arrive à quelque chose. Il y a un achèvement, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Alors, dans le cas de la création de Dieu, c'est l'œuvre qui se crée. Dans le cas du scientifique qui raisonne, il avance, en fait, dans la connaissance. Donc, c'est cette espèce de satisfaction de vivre quelque chose qui a une certaine plénitude, qui a une certaine progression, qui avance et qui a une unité, qui a un achèvement. Il n'en dit pas beaucoup plus que ça, hein, en fait. Après, je pense que c'est à chacun d'essayer de trouver, en fait, dans ce vécu propre, ce à quoi ça peut correspondre. Mais je dirais de manière assez basique, là, on a parlé du management, et du coup, ça me fait penser aussi dans le travail, dans un travail quel qu'il soit, hein, que ce soit un travail professionnel ou que ce soit un travail, j'ai décidé d'aller faire mon jardin, par exemple. Je passe un moment dans mon jardin, ben, il se passe des choses, je fais des choses et j'ai cette espèce de satisfaction, en fait, un peu d'avoir accompli quelque chose, quoi. Alors après, pour la fin de ta question, oui, c'est quelque chose de très important, cet aspect démocratique chez Dewey. Dewey est un grand défenseur de la démocratie et pour lui, la démocratie ne se réduit pas au suffrage universel. Hein. La démocratie, c'est vraiment une manière de vivre. Hein. Il dit « democracy as a way of life ». C'est-à-dire que la démocratie, elle est partout. Elle est non seulement dans la vie politique, mais elle est dans la vie sociale, elle est dans la vie professionnelle. Et donc, pour lui, en fait, effectivement, cette expérience esthétique qui est quelque chose de... qui a un sentiment commun à... Enfin, en tout cas, qui peut être commun à l'humanité, hein, tout être humain... quelle que soit sa condition, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa civilisation, quelle que soit sa nationalité, peut faire ressentir une expérience esthétique. Et il peut y avoir justement une expérience esthétique par rapport à certaines œuvres. Je pense du coup beaucoup à la musique, parce que dans la musique, il n'y a pas le savoir d'une langue... comme le français, l'anglais ou quoi que ce soit, on dit que c'est le langage universel par excellence. Et donc c'est quelque chose en fait qui pour Dewey peut rapprocher les gens et les faire communiquer et créer un sentiment de solidarité auprès des personnes. C'est toute la fin de son livre est là-dessus.
Mais tu en es revenu à l'expérience de l'art. Mais je suis sensible à ce que tu as dit sur le sentiment d'avoir fait quelque chose. Tu as parlé de satisfaction. Mmh. Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement, toute expérience telle qu'il l'a définie, c'est une expérience de création, de participation à faire quelque chose de neuf. Parce que tu vois... Quand tu en as parlé, j'ai pensé, moi, quand je bricole, le lendemain, je viens voir ce que j'ai fait et je suis heureux.
Oui, oui, oui. T'as totalement raison. Et d'ailleurs, on peut le rapprocher un peu aussi de Bergson. Alors, ils se sont lus. Parfois, Dewey cite Bergson et Bergson est un des... est quasiment le premier qui a introduit le pragmatisme en France. Et il y a ce sentiment, oui, de créativité, de création. Et ça rejoint Bergson, ça rejoint aussi Spinoza, hein, cet effort pour persévérer dans son être. En fait, c'est pas uniquement de la survie, mais c'est un effort de création, quoi. Ouais, tout à fait.
Oui, je crois bien saisir ce souci d'enlever à l'expérience esthétique son auréole de sacré pour la réintégrer dans la vie quotidienne. Mais de ce fait, je me pose quand même la question de la spécificité de l'expérience esthétique, sachant qu'à aucun moment tu n'as prononcé le terme de beauté ou de beau. Oui. Et est-ce que ce n'est... Enfin, disons que même si elle s'inscrit dans le fil de la vie quotidienne, il y a quand même justement une rupture, quoi. La beauté, me semble-t-il, nous arrête. Je sais pas, c'est un petit peu comme quand on tombe amoureux. Effectivement, ça arrive dans le cours de la vie, mais bon, c'est un instant extra, ordinaire.
Oui, oui, oui. Alors, ouais. Alors, pour lui, l'expérience ascétique, c'est quand même une expérience extrêmement intense. Ouais, ça, c'est sûr, c'est pas une expérience banale. Alors maintenant, c'est vrai qu'il ne parle pas de l'art, il ne le définit pas. De manière générale, Dewey, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les définitions, ce qui est définition, concept. Il n'aime pas tout ce qui définit, tout ce qui cloisonne, tout, pour lui, ça partage, ça dissocie. Il parle un petit peu du beau, parce qu'il parle de Kant. On ne peut pas parler d'esthétique sans parler de Kant. Et ce terme de beau, lui, il dit, je ne vois pas trop en fait, ce que ça amène. Pour lui, c'est plutôt quelque chose qui réduit, en fait. L'expérience esthétique peut être très large. Alors, sa palette est très large, donc effectivement, elle est d'une certaine manière, dans toutes les expériences véritables, hein, où il y a quelque chose qui se fait, qui se crée. Mais elle est quand même beaucoup plus intense lorsqu'on est en face de ce qu'on appelle des objets d'art. Mais lui, il définit pas ça, en fait. Effectivement, le beau, il est dit, il voit pas trop ce que ça amène. Et puis la différence entre beau et sublime aussi qu'amène Kant. Bon, il dit, c'est peut-être vrai, ça se rapporte peut-être à un vécu, à quelque chose, mais en gros, il pense que ça pourrait peut-être plus dissocier et restreindre les choses, en fait, que les partager, les définir. C'est aussi son côté démocrate, en fait, je pense, qui est en jeu là-dessus. Mais en tout cas, il part comme étant une réalité de fait qu'il y a des œuvres d'art, mais en tout cas, dans ce livre-là, et je pense pas ailleurs, il n'essaie pas de définir vraiment l'art, en fait, sous des définitions. Il y a un autre livre qui s'appelle, de lui, qui a été traduit en français, qui s'appelle La quête de la certitude, The Quest for Certainty, et dans lequel il fait l'historique de la philosophie de l'art. Et il dit qu'en fait, de la philosophie tout court, pas de la philosophie de l'art, il fait l'histoire de la philosophie, et il dit qu'on a beaucoup essayé en fait, de se rassurer en se trouvant des choses qui étaient immuables, qui ne bougeaient pas. Alors, bien sûr, il cite Platon, le monde des idées, en fait, qui est le monde immuable, le monde éternel, le monde vrai par rapport à notre monde réel, qui est celui qui est à l'épreuve du temps, qui se délite, etc., etc., qui n'est pas pérenne. Et il dit que très souvent, en fait, dans la philosophie, on a voulu se rassurer, en fait. C'était la quête pour la certitude. Et même dans la science, hein, dans la science, il dit qu'il y a eu toujours cette tentative de dire que la science, ça pose des choses, ça nous dit ce qu'est le monde de manière immuable, sûre et certaine. Et l'évolution de la science montre bien que ça n'est pas vrai, hein, que la mécanique newtonienne n'est pas fausse. La science actuelle ne dit pas que la mécanique newtonienne est fausse. La mécanique newtonienne nous permet de faire plein de choses, hein, y compris, je crois, même quand on envoie des satellites ou des fusées dans l'espace, ben, en gros, c'est de la mécanique newtonienne, c'est pas de la mécanique relativiste. Mais la force de gravité, on a pu penser que c'était quelque chose, en fait, c'était ça le réel, les forces de gravité. Et quand Einstein vient avec la relativité, il donne un modèle complètement différent, qui intègre quand même les équations newtoniennes, mais qui nous dit autrement ce qu'est le monde, quoi. Donc il est aussi bien, enfin, et ça c'est un peu les pragmatistes de manière générale, hein, dans la connaissance, c'est pour les pragmatistes, en fait, c'est le vrai, c'est, et on rejoint en fait cet aspect création, c'est ce qui nous permet de faire des choses, quoi. C'est la connaissance.
Merci Pierre. Merci à la BAT.
Je pense qu'il va être obligé de choisir dans la suite pour que ça fasse 30, si tu veux, je crois.
Enfin, s'il nous donne le...
Oui, mais on n'a jamais conservé les questions précédemment. Hein.
Oui, parce que c'est très spécifique.
C'est... Et puis souvent, enfin, chez nous, souvent, on n'entend pas bien.
Oui, alors peut-être que l'on entend mieux.
On va voir avec lui. Il faut lui donner, je pense, les noms des gens. En tout cas, bravo. Hein. Bravo à tous les deux. Hein, je ne sais pas ce que ça va donner sur écran, n'est-ce pas? Mais...
En tout cas, le cadre, c'est super. Enfin, c'est vivement qu'on puisse avoir du monde. Et c'est vrai au niveau de la sonorisation.
Ah oui, oui, oui. Non, c'est bien. C'est bien. Pour moi, c'est à renouveler. Hein. Si vous avez deux livres prêts déjà?
Travailler, oui,
hein? Si, moi je suis pas là. Oui, oui. Ou alors je peux en refaire un.